Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine, dans Univox, nous parcourons l'éducation aux médias et à l'information.
L'éducation aux médias et à l'information. Donc développer des facultés d'analyse, l'esprit critique si on veut, en transmettant des outils qui permettent de comprendre, de prendre du recul et d'interpréter l'information que l'on reçoit. Et cela va être possible, ou du moins favorisé, par une mise en pratique, c'est-à-dire en produisant soi-même, en étant soi-même acteur de l'information et des médias. Donc finalement, c'est donner aux gens les moyens de s'initier, de comprendre le fonctionnement médiatique et d'exercer leur liberté d'expression.
C'est parce qu'on ne se comprend pas, c'est parce qu'on est dans l'incommunication constante entre individus et dans la société, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on vise à avoir une activité communicationnelle pour réduire l'incompréhension, réduire l'incommunication. La communication, dans ce cas-là, ne serait pas un exercice d'intercompréhension, mais plutôt un exercice de réduction de l'incommunication et l'incompréhension. Et dans ce cas-là, je souligne l'importance véritable de ce qu'on appelle des traducteurs et des médiateurs pour pouvoir faciliter ce qu'on appelle ce lien social, ce fameux lien social qui est avant tout un lien communicationnel. Quand on parle de communication, finalement, on parle d'une volonté de réduire la distance entre nous et de réduire l'incommunication entre nous en utilisant potentiellement de l'information.
L'info se dévoile.
Par an, il y a plus de 3 millions d'articles scientifiques qui sont publiés dans le monde, partout. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que 9% de la population française et 6% de la population américaine pensent que les missions Apollo ont été tournées en studio, qu'il n'y a pas eu d'atterrissage sur la Lune. On a également 16% des Américains qui ont des doutes sur les formes de la Terre et 10% des 18-29 ans aux États-Unis qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas un problème.
Aujourd'hui, en France, il y a 66 millions d'experts. On a tous entendu cette phrase. L'activité sur les réseaux sociaux n'a jamais été aussi importante. On sent bien que les Français passent beaucoup de temps devant les écrans. Et on le voit aussi dans les commentaires. Les gens nous font part de leurs avis, parfois de manière très beaucoup trop longue, ou en écrivant en majuscules pour montrer qu'ils sont vraiment pas contents. Le plus embêtant, enfin, voire même inquiétant, c'est plutôt la manière dont nous intégrons les informations. Si l'on prend l'exemple du sujet Covid-19, sujet peu traité ces derniers temps. En France, on sait qu'on va « manger » entre guillemets un sujet d'actualité jusqu'à l'indigestion lorsque les chaînes d'infos en continu basculent dans l'édition spéciale.
On subit littéralement un flot d'informations qui explose et donc on est face à nos écrans qui nous renvoient quand même essentiellement, par les canaux principaux, une information dogmatique et idéologique qui nous submerge totalement.
C'est pour ça qu'il est toujours important de croiser les sources, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources d'informations à sa disposition, plusieurs journaux, des journaux, une chaîne de télé, la radio, une chaîne YouTube. Il y a mille manières de s'informer, mais ce qui est important, c'est que les gens deviennent acteurs pour s'informer, pour en savoir un peu plus, pour pouvoir comprendre le jargon, pour connaître quelques anecdotes, quelques faits historiques et quelques points de vue sur le journalisme. Il faut faire de l'éducation aux médias pour tous.
Univox.
Peut-on tout dire à la radio? Par principe, oui. C'est ce que l'on appelle la liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir exprimer librement ses opinions. Alors cette liberté est garantie par des textes importants. Alors, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est aussi la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est aussi le premier alinéa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Pour éviter des abus, cette liberté d'expression est nécessairement encadrée. Ces abus constituent ce que l'on appelle des délits de presse. Il s'agit de la diffamation, de l'injure publique, de la provocation aux crimes et délits, de l'incitation à la haine et à la discrimination, de l'atteinte à la vie privée et de la contestation de crimes contre l'humanité. Ces délits sont punis par la loi. Généralement, une radio libre peut s'exprimer plus librement qu'une radio commerciale ou qu'une radio de service public. Une radio commerciale diffuse de la publicité, source de revenus. La publicité peut aussi être un moyen de pression pour limiter la liberté d'expression d'une radio commerciale, car les annonceurs publicitaires peuvent exercer des pressions sur la radio. Et une radio de service public peut voir sa liberté d'expression limitée par l'État s'il le décide.
Et peut-être pour compléter un petit peu la définition, effectivement, un radio libre, ce ne sont pas que les radios associatives, même si à Radio Campus, on préfère les radios associatives. On ne va quand même pas cracher sur les radios associatives, loin de là. Mais ce qui a marqué la radio libre, c'est la fin de la censure, c'est de pouvoir aborder tous les thèmes, et notamment dans les années 90, je dirais, notamment toutes les soirées, oui. Toutes les discussions de nuit sur la plupart des radios commerciales que vous connaissez tous sans doute, où là on a pu voir cette parole un petit peu libérée. C'est la fin de la censure, surtout cette évolution-là, que ce soit musicale ou dans l'expression orale. Justement, pour s'adresser aux jeunes, vous pensez que ça peut apporter quoi aux jeunes de venir faire une visite pédagogique d'une radio, finalement de venir découvrir ce qu'est une radio en visitant par exemple Radio Campus Clermont, mais où ils le font à Radio France, ils le font dans pas mal d'endroits.
En général, j'ai surtout ces réflexions, c'est « Ah oui, mais toi t'es jeune, tu peux pas savoir, tu peux pas t'exprimer ». Et là, prendre le temps et avoir entre guillemets le droit de s'exprimer, tout média comme télévision, radio, etc. paraît tellement intouchable.
Inaccessible.
Pour un jeune. Et du coup, de permettre de dire à un jeune, voilà, ça c'est une radio, toi tu peux parler à un micro.
Et c'est important parce que ça permet de démocratiser comment un média et comment peut-être fabrique ce qui se dit dans le média. Plus loin, c'est peut-être aussi comment se fabrique l'information.
Le petit campus. Le petit campus. Le petit campus.
Est-ce que le fait, justement, de faire de la radio, de faire une émission, ça vous apporte un regard différent quand vous écoutez la radio ou quand vous regardez même une émission de télé sur ce qui peut se passer, justement, derrière et sur l'information en général?
Enfin, avant, on se disait plus que c'était fait en direct, que
c'est vrai.
On me disait ça comme ça venait dans la fluidité utilisée. Alors que la plupart du temps, c'est préparé, c'est mis en scène, c'est travaillé, c'est compliqué.
C'est vrai, il y a beaucoup de travail derrière.
Moi, je m'appelle Martin Pierre, je suis journaliste et j'ai travaillé dans un certain nombre de médias. Donc, quand on est journaliste, on peut faire plein de métiers. Et justement, c'est ça qui est un peu compliqué pour le grand public. On a du mal à se retrouver qui est journaliste, qui est animateur, qui fait de l'information, qui fait de l'infotainment. L'information plus le divertissement, ça donne infotainment. Comment le public, qu'il soit plus jeune ou senior, peut recevoir l'information? Parce que l'éducation aux médias à l'information, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y en a pas que pour les jeunes. Il ne faut absolument pas qu'on ait cette idée-là, cette stigmatisation. Les jeunes ne savent pas s'informer, les jeunes, regardez, sont sur les réseaux sociaux et regardez ce qu'ils partagent, il y a des fausses informations. Non, pas du tout. On est tous responsables. Nous-mêmes, en tant que journalistes, ça nous est arrivé de partager des fausses infos. Moi, ça m'est arrivé une fois et j'ai compris pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas le refaire. Ça peut arriver, une erreur. Ça arrive à tout le monde. La ligne éditoriale, vous savez, c'est cette manière qu'a le média de donner son avis, parfois par l'intermédiaire d'un éditorialiste, parfois c'est le rédacteur en chef ou un chef de service qui va donner son avis sur une question de société pour essayer de la faire bouger, la faire évoluer, ou au contraire de revenir dessus. Et les lignes éditoriales, elles sont de plus en plus floues à l'heure actuelle. On a du mal parce que en France, le journalisme d'opinion, le journalisme qui affirme des idées, qu'elles soient de droite ou de gauche, eh bien, parfois, on a du mal avec parce qu'on dit c'est déséquilibré, c'est trop orienté, ce n'est pas assez pris avec du recul. eh bien, pour certains, il faut un retour de cette presse d'opinion, il faut retrouver des informations, et donc les lignes éditoriales, elles cherchent à se recentrer, elles se ressemblent tout un petit peu. Et si on n'a pas une diversité d'informations, c'est pour ça qu'il est toujours important de croiser les sources, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources d'informations à sa disposition, plusieurs journaux, des journaux, une chaîne de télé, la radio, une chaîne YouTube. Il y a mille manières de s'informer, mais ce qui est important, c'est que les gens deviennent acteurs pour s'informer.
En France, on sait qu'on va « manger » entre guillemets un sujet d'actualité jusqu'à l'indigestion lorsque les chaînes d'infos en continu basculent dans l'édition spéciale. Tenir l'antenne 24 heures sur 24 sur un sujet, c'est un challenge, hein. Pour tenir une antenne, on fait venir des experts. Alors, la définition d'un expert est assez aléatoire, c'est comme dans la vraie vie. C'est assez fluctuant en fonction de ce qu'on a sous la main. Le problème des experts, c'est que lorsqu'ils prennent la parole, ils sont souvent intimement convaincus de la véracité de leurs propos. Tout est dans l'intonation et le langage du corps si vous les regardez à la télé. Et donc vous allez avoir trois experts avec trois points de vue différents qui s'affrontent pour savoir qui aura le dernier mot. C'est un petit peu le problème du débat d'experts, c'est qu'à la fin, on n'en sait pas plus. Pourtant, ce sont bien les interprétations des experts qui donnent du poids à cette information. Ils lui donnent corps, ils l'illustrent à travers des exemples ou des contradictions.
En tant que chercheur, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout lorsqu'on n'est pas affilié à une université ou à une institution de recherche. Dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. Donc, le grand public doit payer pour accéder à ces résultats, alors que c'est ce même grand public qui a déjà payé les chercheurs pour faire la recherche. Donc, ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est que la plupart des articles scientifiques est écrit dans un jargon qui est en général inintelligible pour les profanes. Et puis, il y a une autre barrière, nous, on travaille avec des élèves du secondaire. L'autre barrière, ça va être que tous ces articles sont écrits en anglais. Et l'anglais va être une barrière pour des adolescents français. Donc, ces connaissances scientifiques se heurtent déjà à tout ça. Ça, c'est les premiers problèmes. Ensuite, un autre problème, c'est que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement que les vraies informations. Donc nous, ce qu'on veut montrer à ces élèves, c'est que la connaissance scientifique se construit lentement, qu'elle se construit avec des essais et des erreurs, que c'est un travail collectif qui requiert la confrontation entre théorie et résultats expérimentaux et des changements de paradigme.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Nicolas Duraca, docteur en sciences de la communication et coordinateur au CISCA.
Trois grands modèles qui montrent la communication sous son angle d'une visée d'intercompréhension. La communication serait alors quelque chose qui viserait à ce qu'on atteigne une compréhension commune. Or, il existe un quatrième grand modèle, une quatrième grande appréhension de la communication, qui est une révolution copernicienne. On inverse complètement les choses, et finalement, on parlera dans ce cas-là plutôt d'incommunication, c'est-à-dire que la base de toute intention communicationnelle, la base de toute intention de communiquer des individus et des êtres humains, serait le fait qu'on ne se comprenne pas. C'est parce qu'on ne se comprend pas, c'est parce qu'on est dans l'incommunication constante entre individus et dans la société, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on vise à avoir une activité communicationnelle pour réduire l'incompréhension, réduire l'incommunication. Dans ce cas-là, je souligne l'importance véritable des médiateurs, c'est-à-dire des individus qui ont cette capacité à faciliter la réduction de l'incommunication en mettant en place des stratégies de traduction, des stratégies de pont, de médiation.
Les journalistes ne pourraient-ils pas jouer ce rôle de vulgarisateur scientifique ?
Il me semble qu'en fait, les journalistes le font déjà, ils le font déjà depuis très longtemps. Je sais que moi, il y a un format qui me parlait vachement quand j'étais petit et qui étonnamment parle autant à mes neveux, c'est pas sorcier. Bon, typiquement, c'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation pure et c'est quand même du journalisme. Le vulgarisateur va juste vulgariser. Normalement, son boulot, c'est de simplifier quelque chose qui va être compliqué à comprendre. Là où le journaliste, lui, il va essayer d'y rajouter du contexte, d'aller récupérer des informations, éventuellement de faire de l'enquête, de l'interview, de chercher le contradictoire. Donc, il faut quand même bien situer que ces deux métiers qui sont quelque part différents, mais qui évidemment se rejoignent.
Et est-ce que ce serait pas aussi le rôle des chercheurs
Le rôle des chercheurs, 100% oui. Maintenant, je pense pas que ce soit juste le rôle des chercheurs. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des journalistes scientifiques qui font donc du journalisme scientifique et de la vulgarisation, et qu'il y a des gens qui, comme dans l'émission C'est pas sorcier, qui n'ont pas forcément de formation scientifique, mais qui font de la vulgarisation aussi, sans faire de journalisme scientifique. Et après, bien sûr, il faut que les chercheurs aient ce rôle de vulgarisateur aussi.
Alors, parlons du rôle du chercheur. Le rôle du chercheur, il a quatre facettes. La production de résultats scientifiques qui vont être publiés dans des journaux académiques. Il va y avoir la valorisation de ces résultats, notamment grâce à des congrès ou des brevets. Il va aussi y avoir l'aspect formation des pairs, que ce soit des étudiants ou des collègues. Et puis, une des dimensions qui est souvent oubliée, négligée, et pourtant c'est une des dimensions les plus importantes, il y a la dissémination, une dimension qui est parfois dénigrée, même par certains chercheurs.
Lucie Boulet, postdoctorante à la NASA et coprésidente de l'association Décoder.
Pourtant, la plupart des chercheurs est payé par de l'argent public. Donc le minimum qu'on puisse faire en tant que chercheur, c'est rendre compte de comment on a utilisé cet argent en présentant nos résultats au grand public régulièrement. Alors, pourquoi nous pensons qu'il est important que les chercheurs parlent de leurs résultats scientifiques et partagent avec le plus grand nombre? Parce que ces résultats scientifiques vont servir à différentes catégories de personnes de différentes manières. Par exemple, tous les citoyens, l'ensemble des citoyens, qui vont bénéficier de ces résultats scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi pour pouvoir faire des choix éclairés. Nous pensons aussi que c'est important de partager ces résultats régulièrement parce que ça va permettre de combler en fait ce fossé qu'il existe parfois entre le monde de la recherche et le grand public, par une espèce de démystification. Malheureusement, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout. Dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. La deuxième barrière, c'est que la plupart des articles scientifiques sont écrits dans un jargon qui est en général inintelligible pour les profanes. Et puis, il y a une autre barrière. Nous, on travaille avec des élèves du secondaire. L'autre barrière, ça va être que tous ces articles sont écrits en anglais. Et l'anglais va être une barrière pour des adolescents français. Ensuite, un autre problème, c'est que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement que les vraies informations. Donc nous, ce qu'on veut montrer à ces élèves, c'est que la connaissance scientifique se construit lentement, qu'elle se construit avec des essais et des erreurs, que c'est un travail collectif qui requiert la confrontation entre théorie et résultats expérimentaux, par opposition à une information qui va être sortie de nulle part et partagée des millions de fois en un temps très court sur les réseaux sociaux.
Chandru Kumar, journaliste scientifique indépendant.
À la base, j'avais déjà le côté scientifique. J'ai toujours eu cette appétence pour les sciences. Après, l'aspect journalisme, il est venu pendant la fac. C'est vrai qu'au début, quand on aime les sciences, en tout cas moi, de mon point de vue, j'avais toujours envie d'en parler. Et donc, il fallait que j'en parle le plus simplement possible pour pouvoir en parler avec les membres de ma famille, avec mes potes. Donc ça, ça a été plutôt le côté vulgarisation. Et puis ensuite, il y a eu l'aspect vraiment remuer la science, essayer de comprendre, enquêter, aller plus loin en fait que la simple découverte. Et donc là, ouais, ça a été plus vers le journalisme. Je pense qu'au final, n'importe quelle expérience peut aider dans le boulot de journaliste. Je pense que ce qui est important, c'est surtout la diversité de profils de journalistes. Et donc, je pense que mon doctorat peut d'une certaine manière apporter un peu au journalisme, dans le sens où ça met plus de diversité, parce que beaucoup de journalistes sortent du parcours classique, en fait, hein, école de journalisme ou alors Sciences Po. Il faut avoir envie quand même d'aller se frotter un moment au public, de se mettre un peu en danger sur un domaine où on est expert, où on est hyper qualifié, et prendre le risque quand même de se retrouver face à des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je capte rien de ce que tu dis. T'as beau avoir Bac plus 1000, t'as beau avoir tout ce que tu voudras, je comprends pas ce que tu dis, et encore pire, peut-être même que ça m'intéresse pas. » Et je pense que c'est intéressant la période qu'on vit actuellement, parce qu'on voit qu'en tout cas, les gens ont envie de vulgarisation. On sent que dans la société, il y a un vrai besoin et une vraie demande de comprendre modestement le monde qui nous entoure, sachant que nous-mêmes, les scientifiques, on comprend clairement pas tout, quoi. Et ce qui peut être compliqué aussi dans le cadre du journalisme, hein, parce que si on veut faire une enquête sur un sujet et que rien que le fait d'expliquer scientifiquement ce sujet nous prend 10 pages ou 20 minutes, on a flingué notre sujet sans même aller vraiment sur l'enquête. S'il n'y a personne pour vulgariser, s'il n'y a personne pour expliquer, s'il n'y a personne pour remettre un minimum en question, le grand public n'a pas d'autre choix que d'écouter ceux qui parlent. Et donc, on est quand même dans une société où n'importe qui aujourd'hui peut s'improviser expert, en fait. C'est hyper facile, hein. Il suffit d'avoir le badge, qu'à la télé, on écrive expert de tel truc. En fait, je pense que moi, mon principal conseil, il est déjà dans ta question. En fait, c'est juste d'accepter de prendre l'information avec des pincettes, d'accepter de ne pas tout savoir ou de ne pas croire tout savoir. Je pense qu'il faudrait presque un moment qu'on redéfinisse aussi la fake news. Je ne vais pas parler des fake news de type gros mensonge. Gros mensonge volontaire, parce que bon, là, voilà, c'est quand même pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la fake news faite par erreur. C'est important de vulgariser, c'est important d'expliquer, parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvais raisonnements.
Pauline Rivière, co-directrice Le Connecteur.
Et les médias sont indispensables pour aiguiser notre esprit et enrichir notre vision du monde, notre connaissance personnelle de notre environnement.
Univox.
L'info se dévoile.
3 jours pour décrypter les médias.
La fausse dévoile.
Peut-être que la première question que j'ai à me poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de faire une éducation aux usages numériques ?
Après tout, on n'a pas la science infuse, donc on doit bien se renseigner un petit peu.
Les débats sont nécessaires. Enfin, mettre en débat est nécessaire car c'est le bouillonnement des idées qui nous permet d'avoir assez de matière pour nous positionner par rapport à une information. La pensée autre est indispensable. Et les médias sont indispensables pour aiguiser notre esprit et enrichir notre vision du monde, notre connaissance personnelle de notre environnement. Mais pourtant, nous devons tous et toutes apprendre. Apprendre à faire preuve d'humilité dans nos propos. Nous ne savons rien en dehors de ce que nous savons. Nous devons, nous, citoyens, journalistes, et d'une manière plus large, celles et ceux qui prennent la parole en public, apprendre la tolérance, se mettre à la place de l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A, c'est celui qui n'est pas comme nous, celui qui ne pense pas comme nous. L'autre avec un grand A, c'est celui qui nous confronte à la différence, parfois même à l'incompréhension.
Non, c'est... Oh.
Tout ce que je dis, ce n'est pas vrai. C'est juste mon point de vue.
Non, c'est... Oh.
Le premier conseil, mais c'est le même que pour l'info et pour les fake news, etc. C'est-à-dire qu'il faut développer son sens critique, il faut regarder les sources. Donc quand on a un doute, quand on a un truc qui nous paraît trop mirobolant ou trop beau pour être vrai déjà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de moyens de vérifier auprès de gens sérieux ou de confiance si c'est vrai ou pas. Ça, c'est vraiment la base.
Puis c'est aussi important dans le sens où quand tu as plein de sources, si tu recroises toutes les sources, à un moment, tu saisiras ce qu'est la vérité parce qu'au niveau des radios ou des médias, chacun va l'amener d'une facette à une autre, concernant plutôt l'actualité, je pense. Et du coup, avoir plein de sources différentes fait que tu peux te construire ta propre idée et je trouve ça assez important.
Mais en tout cas, ouais, amener la population à prendre un peu plus de recul et essayer de faire son propre avis sur chacune des questions.
Et se poser la question, toujours avoir à l'esprit, quand on lit quelque chose qui nous paraît un petit peu sensationnel, est-ce que c'est vraiment l'information la plus probable ou est-ce qu'il y a une autre piste qui existe déjà et qui est beaucoup plus probable et soutenue par des preuves scientifiques?
Non, c'est... Oh.
L'esprit critique, ça se travaille sur le long terme.
Non, c'est... Oh.
On va vous donner un max d'informations et vous avez le droit d'avoir une opinion.
Il ne faut pas absolument voir des problèmes. Il faut aussi tout simplement qu'on devienne acteur de notre information en comprenant un peu plus. Et après, chacun se fera l'idée de là où il pense que l'information pour lui est bien et correspond à son point de vue, sa ligne éditoriale personnelle, etc. Et avec la liberté d'avoir un panel énorme, le plus large possible, du privé au public, de l'indépendant aux autres, etc. Et puis, il y a des gens qui vont parfois refuser d'aller s'informer, bon, ça posera un autre problème, mais sinon on n'est pas obligé de lire Le Monde et d'écouter France Culture en podcast pour bien se porter, quoi.
Je trouve que le maître mot, il l'a vraiment dit, c'est l'idée d'esprit critique. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je salue tous ceux qui vont apprendre à nos jeunes l'esprit critique. Je regrette que ce ne soit pas un apprentissage qu'ils aient très tôt dans leur scolarité. Le seul conseil que je donnerais modestement, c'est juste de dire aux gens, mais parfois, vous avez le droit de dire que vous ne savez pas.
Le petit campus, le petit campus, le petit campus.
Bonjour, vous êtes sur Radio Campus 93.3 et nous sommes le petit campus. On est deux collégiennes plutôt sympas, enfin on espère.
Le petit campus, le petit campus, le petit campus.
Est-ce que vous pensez que passer derrière le micro pour un jeune ou pour un adulte, en tout cas en créant une émission, en étant bénévole ou lors de l'éducation aux médias, donc apprendre finalement à devenir journaliste, ça peut pas être un des meilleurs moyens de comprendre comment se construit l'info?
Non, c'est... Oh.
Bon, oui, c'est important parce que ça permet de démocratiser comment un média et comment peut-être se fabrique ce qui se dit dans le média. Plus loin, c'est peut-être aussi comment se fabrique l'information pour avoir un peu un esprit critique en écoutant, qu'on n'ait pas avalé ce qui est dit bêtement.
Et puis donner envie, enfin, quand tu vas dans le studio, c'est trop stylé.
La dimension pratique, elle est dans les apprentissages assez importante et on le voit bien en radio lorsqu'on fait de l'éducation aux médias et à l'information en pratiquant, on expérimente et on apprend.
Ça aide parce que quand on est derrière le micro, on n'a pas forcément envie non plus de raconter des bêtises.
C'est très très formateur et voilà, enfin, c'est génial.
Et merci pour cette belle initiative.
L'info se dévoile.
3 jours pour décrypter les médias.
L'info se dévoile.
Est-ce que le mieux serait pas que tout le monde fasse un peu de journalisme? Bah si, clairement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une hygiène de vie que j'aurais tendance à promouvoir pour tout. J'aimerais bien aussi que les gens fassent un peu le ménage pour se rendre compte ce que c'est d'être femme de ménage. Non, mais je dis pas ça en rigolant. Ma mère était femme de ménage. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut mettre les mains dedans. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron ou au moins qu'on comprend le taf de forgeron. Donc clairement, ouais, faites du journalisme et faites de tout. Et j'aimerais bien que ce soit le rôle de l'école pour le coup. Je remets pas du tout en question la place des enseignants, mais plutôt la façon dont sont faits les programmes. C'est vrai que le journalisme et comme plein d'autres domaines de la vie sont hyper importants pour construire le citoyen et la citoyenne. Et ce serait bien, ouais, que ça passe par de vraies expériences et qu'il y ait tout un cadre aussi qui fasse que ce soit plus facile pour les jeunes et les moins jeunes, hein, d'ailleurs, pour tester, soit pour comprendre comment ça fonctionne, mais aussi peut-être pour s'épanouir, hein, parce que c'est aussi cool de pouvoir raconter sa perception de la réalité, et j'invite tout le monde à le faire, moi. C'est trop bien.
Donc l'important, c'est l'esprit critique, finalement.
Exactement. Moi, c'est mon maître mot.